France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque semaine, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité, notamment une actualité marquée par les médias. Et puis, pour le débat, on reçoit aujourd'hui le plus politique de nos scénaristes. Politique parce qu'il a très longtemps fréquenté les allées du pouvoir, membre notamment du cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur entre 2000 et 2002, un certain Jean-Luc Mélenchon. Mais politique, il l'est aussi dans son travail de scénariste, puisqu'on lui doit Baron Noir sur la déliquescence de la gauche et du PS en particulier, et aujourd'hui La Fièvre sur la déliquescence de notre idéal républicain. Alors, la fiction permet-elle d'entrer réellement dans les arcanes du pouvoir? Peut-elle changer notre perception du politique? Peut-elle dire par le faux ce qu'est le vrai? Ces questions, nous les poserons à Éric Benzekri dans le débat. Mais pour l'instant, place au duel.
Le grand face-à-face. Thomas Negarov sur France Inter.
Bonjour Gilles et Natacha.
Bonjour. Bonjour.
Dans l'actu, il y a évidemment ce terrible attentat à Moscou, une salle de spectacle prise pour cible, des dizaines de victimes, Daesh qui revendique avec sa branche afghane. On reviendra, Gilles et Natacha, la semaine prochaine, quand l'information sera retombée, qu'on aura eu le temps de la digérer surtout, parce que vous avez besoin de temps, et c'est tout à votre honneur, pour nous donner votre analyse, votre regard. Donc la semaine prochaine, avec un invité en plus sur le sujet, on aura le temps de revenir sur l'attentat de Moscou. On va commencer le duel avec une information plus politique, plus française. C'est Bruno Le Maire qui a fait une offensive médiatique toute la semaine pour évoquer à la fois sa rupture et sa continuité avec le pouvoir en place. Ne lui parlez pas de 2027, il ne veut surtout pas en entendre parler.
Je ne suis pas candidat. Je suis ministre de l'économie et des finances. Je vois le temps qui nous reste devant nous. Je vois la nécessité d'accélérer les changements de notre modèle économique et de notre modèle social au niveau national comme au niveau européen. Je vois une Europe qui est coincée entre une Chine interventionniste et des États-Unis de plus en plus protectionnistes et qui le resteront après l'élection de novembre. Je dis, mais qu'est-ce que veut faire et qu'est-ce que peut faire la France et l'Europe?
On a écouté Bruno Le Maire au micro de France Inter, mais il est aussi en librairie avec La Voix française. Il n'en fallait pas plus pour que les commentateurs parlent de 2027. Peut-être allez-vous le faire vous aussi, mais entendre un ministre en exercice depuis 7 ans se demander ce que peut et ce que veut la France, est-ce que c'est pas un peu étrange, Gilles?
Écoutez, j'ai entendu Bruno Le Maire, on peut le croire, on peut ne pas le croire aussi. Il y a une offensive à la fois littéraire, médiatique et donc politique qui est manifeste, qui est celle du ministre, mais qui est aussi celle du responsable politique avec 2027 en ligne de mire. Et d'ailleurs, c'est frappant de voir à quel point cette pré-campagne commence tôt. On inaugure pour la première fois le deuxième et dernier mandat d'un président en exercice et, eh bien, on le voit a fortiori avec un président de la République affaibli par l'absence de majorité absolue. On voit que la campagne, la pré-campagne commence tôt. Je crois qu'il y a peut-être deux analyses complémentaires que l'on peut faire de cette offensive de Bruno Le Maire. La première est sur sa stratégie politique et la deuxième sur le positionnement idéologique. Sur la stratégie politique, Bruno Le Maire fait partie de la poignée de personnalités de la majorité qui peut légitimement aspirer à succéder à Emmanuel Macron. Mais il a aussi, aujourd'hui, des faiblesses. Je pense que dans l'opinion, il est encore perçu comme un second. D'ailleurs, c'est très frappant. Il l'est dans l'ordre protocolaire. Il l'est dans la popularité. Il l'est dans l'ampleur de ses soutiens sur X, sur Twitter. Et je crois que c'est une personnalité sur laquelle il y a relativement peu d'impact. C'est-à-dire qu'il a une popularité réelle, mais un contenu qui est faible sur sa personnalité et une mémorisation sans doute assez limitée sur la politique qu'il a conduite. Et donc, il est aujourd'hui face à un choix. Question qui se pose pour lui, mais qui se pose pour tous les autres prétendants possibles dans la majorité, qui est de savoir à quelle distance faut-il se placer par rapport à Emmanuel Macron dans l'optique de cette succession. Jusqu'à présent, Il a choisi la proximité et la fidélité. Il était aux Républicains, il a adhéré à Renaissance et il ne s'est jamais démarqué d'Emmanuel Macron. Là, il y a peut-être le début d'une volonté d'autonomisation et d'identification, d'où le deuxième élément d'analyse, mais on y viendra, sur quel positionnement.
Justement, alors, Gilles n'a pas vraiment répondu directement à la question que je lui posais. Entendre un ministre en exercice depuis 7 ans se demander publiquement ce que veut et ce que peut la France, est-ce que c'est pas un peu étrange? Et ça renvoie un peu à la notion de mémorisation qu'évoquait Gilles, c'est qu'on a du mal, effectivement, à savoir un peu, à fixer, en tout cas, quelle est sa ligne politique.
Mais c'est tout le problème, en effet. Gilles disait qu'on avait assez peu de mal à retenir des grands axes d'une politique qui serait une politique lemaireienne. Bon, après un septennat à Bercy, c'est tout de même gênant. Alors, bien entendu, Bruno Le Maire a ceci de particulier dans l'exercice du ministère, qu'il a eu à gérer la crise du Covid, puis ensuite la guerre en Ukraine et donc l'inflation qui en découlait. Et donc, il se retrouve dans une position où il doit défendre un bilan, tout en donnant l'impression que ce bilan est bien le sien, même si il aurait autre chose à proposer parce que il en a plus sous la pédale et qu'il n'est pas totalement Emmanuel Macron. Mais c'est la quadrature du cercle. Et de même, sur le fond des idées politiques, il doit défendre un bilan qui est celui d'une augmentation de la dette absolument énorme, avec des boucliers tarifaires qui certes sont parfaitement défendables étant donné les circonstances, mais qui ont été dessinés, on en a parlé plusieurs fois ici, sans réellement chercher à cibler ce qui a provoqué des dépenses dont certaines peut-être étaient un peu excessives. Et aujourd'hui, il se présente comme tous les candidats de droite, parce qu'il faut bien remarquer que parmi les candidats à la succession d'Emmanuel Macron, on se situe largement à droite, eh bien il se présente comme le candidat de la rigueur, ce qui le met rigoureusement sur la même ligne, par exemple, qu'un Édouard Philippe. Mmh. Avec les mêmes discours, les mêmes postures, et cette impression d'avoir, par exemple, eh bien, le programme de François Fillon de 2017, le programme finalement qui était déjà... Parce que déjà, François Fillon 2017, c'était pas particulièrement novateur. C'était l'idée que l'Allemagne, 15 ans avant, avait mené une politique formidable et que on devait faire la même chose, c'est-à-dire une course à la compétitivité en rognant sur l'ensemble des aides, l'ensemble des acquis sociaux et en se disant que on allait comme ça donner de la respiration aux entreprises, ce qui en fait est totalement inadapté au monde tel qu'il est aujourd'hui, aux enjeux européens, on va peut-être approfondir cela, mais il y a une espèce de fascination pour le modèle mercantiliste allemand. Bruno Le Maire est un ministre dont toute la politique est obsédée par la question de l'exportation et la question de l'aide aux grands groupes, sans jamais réfléchir au fait que la structure économique de la France est fondée sur les PME. Or, les défaillances de PME ces derniers mois augmentent dangereusement. Bref, rien dans son programme de véritablement nouveau.
Et un bilan qui sera difficile. On a appris cette semaine que le déficit budgétaire de la France n'était pas de 4,9 comme le gouvernement l'avait promis il y a quelques mois, ou en tout cas avait tablé sur ce déficit, mais pour plus probablement, on le saura mardi officiellement avec l'INSEE, mais autour de 5,6%, on est très 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 loin du fantasme des 3%.
Très 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 très. Oui. C'est de fait un dérapage absolument considérable sur une année pendant laquelle il n'y a pas eu une crise, une crise majeure. Et ce qui en vient à la question du positionnement idéologique que choisit Bruno Le Maire dans cette offensive. Quand on décrypte ce qu'il dit, il y a les figures imposées d'un potentiel candidat. Dire que la France est à un tournant et faire preuve d'optimisme pour son pays. Et il y a les figures libres, c'est-à-dire les positions par lesquelles un homme politique veut se singulariser et être identifié. Et là, le message est simple, trop de déficit, trop de dépenses, il faut passer de l'État-providence à l'État protecteur, et d'une certaine manière, on peut dire qu'il est conforté par l'actualité. Qu'en penser? A priori, ça paraît étrange. pour la raison que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire quand on regarde le bilan de Bruno Le Maire, se retrouver, on va être, si on finit l'année à 5,6, la France va faire partie vraiment de très loin des très mauvais élèves de l'Union européenne, et s'est éloigné aussi de la hiérarchie des préoccupations des Français. Parce que autant cette question, il y a 10 ans, faisait partie des 2 ou 3 principales préoccupations, autant, quoi qu'il en coûte, oblige sans doute, elle est aujourd'hui en queue de liste. Peut-être, malgré tout, que c'est pas inintéressant pour lui, parce que c'est un territoire qui est quand même largement inoccupé. J'ai entendu Natacha dire il y a Édouard Philippe, mais c'est la célèbre parabole. Il essaye de déserter l'océan rouge où se battent tous les requins pour aller dans l'océan bleu où il espère être tout seul et emmener le débat sur un territoire dont il sait qu'il va être un territoire central. Le problème, et je termine par là, c'est qu'il le fait avec un incorrigible classicisme. La crise climatique et les investissements considérables qu'elle nécessite sont totalement impensés. Le levier fiscal reste totalement tabou. Et donc, le risque pour lui, c'est que son offensive soit une offensive silencieuse, au sens où elle ne rencontre pas d'écho profond dans l'opinion. Et donc, retour à la case départ.
Natacha, des impensés, des tabous, on est presque chez Freud. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Bruno Le Maire?
Peut-être l'envie d'écrire de la littérature, visiblement. Pour ce qui est des propositions politiques, en effet, Gilles parlait de l'absence totale de réflexion sur la question fiscale. J'ajouterais l'absence totale de réflexion sur les raisons de ce dérapage des finances publiques. Encore une fois, la question du déficit commercial, qui devrait être centrale, et donc l'analyse des causes. La question, par exemple, du poids dans la dépense publique des retraites. Nous sommes le pays d'Europe où les retraités vivent le mieux, 3,5% de plus que la moyenne nationale dans le revenu des ménages de plus de 65 ans, alors que dans le reste de l'Union européenne, c'est 12% de moins que la moyenne nationale. Je ne dis pas qu'il faut faire pareil, certainement pas. Certainement pas, parce que, en effet, on peut se réjouir que la France ait sorti les retraités de la grande pauvreté. Mais il y a peut-être un équilibre à trouver. Or, on voit très bien que Bruno Le Maire, exactement comme Emmanuel Macron, exactement comme l'ensemble des macronistes de droite, c'est un peu un pléonasme ces derniers temps, refuse de penser cela. Pourquoi ? Parce que c'est le cœur de leur électorat, tout simplement. Donc, en effet, rien de nouveau sous le soleil.
Le grand face-à-face, le duel.
Le 13 mars dernier, la commission de l'intelligence artificielle a remis son rapport au président de la République Emmanuel Macron. L'un de ses deux présidents, l'économiste Philippe Aghion, en a donné les grandes lignes sur France Inter le week-end dernier.
Une des choses très originales du rapport, c'est la première analyse vraiment avec un grand échantillon de firmes, et on montre que les entreprises qui adoptent l'IA créent des emplois par rapport aux entreprises similaires qui ne l'adoptent pas. Alors c'est globalement, c'est l'emploi global, parce qu'un emploi c'est un ensemble de tâches. Donc l'IA, ce qu'elle fait, c'est qu'elle automatise certaines tâches. Du coup, elle vous permet de gagner du temps sur les tâches créatives notamment. Alors la plupart des emplois, c'est ce qui va se passer, ça nous obligera à travailler autrement. Mais il y a quelques emplois où presque toutes les tâches sont remplacées, et ça correspond à ces 5% dont on pense que là, vraiment, l'emploi lui-même sera menacé. Du coup, il faut une politique du marché du travail pour former et faire rebondir sur d'autres emplois les personnes concernées.
Natacha, est-ce qu'on a eu finalement tort d'avoir peur de l'IA quand on écoute ça ?
Alors, je crois justement qu'il faut sortir de cette idée qu'il faudrait soit avoir peur, soit trouver ça génial, et qu'il faut essayer de penser un bouleversement qui va être extrêmement important. Et tout l'intérêt de ce rapport, c'est justement d'aller au fond des choses. C'est un rapport éminemment technique, avec des propositions de fond, et d'abord, dans ces propositions, une sorte de formation. L'idée d'un plan de sensibilisation et de formation de l'ensemble de la population, des salariés, la réorientation de l'épargne, l'idée d'un pôle en France sur la puissance de calcul, donc la tentative d'anticiper par des investissements ce qui va être nécessaire pour ne pas être totalement dépassé et perdre toute forme de souveraineté. Donc, il y a, je pourrais égrener comme ça les propositions, elles sont extrêmement intéressante. On peut se dire que, par exemple, la proposition d'une exception de l'IA dans la recherche publique, c'est-à-dire essayer de ne pas trop étouffer la recherche française sous des normes qui certes sont nécessaires, et en particulier des normes éthiques, mais essayer de les desserrer un tout petit peu pour permettre de l'avancer, tout cela doit être débattu, mais il y a des choses passionnantes. Ce que j'en retire, premier point sur cette question de la croissance. C'est vrai que Philippe Aguillon adopte volontairement un ton très enthousiaste. Oui. En même temps, moi je suis un petit peu sceptique sur cette idée qu'il y aurait absolument de la croissance qui se créerait. C'est-à-dire qu'on veut évidemment nous vendre cela en nous expliquant, en nous refaisant le coup de la destruction créatrice schumpeterienne. Les 391 entreprises qui ont intégré l'IA en 2018 et qui auraient plus embauché que les autres sont peut-être des entreprises qui étaient en position pour le faire, et il y a là quelque chose peut-être d'un petit peu, enfin dire une façon d'arranger la réalité et d'y voir ce qu'on veut y voir, dont je me méfierais un tout petit peu. Deuxième point, j'ai l'impression qu'en fait, toutes ces propositions sont formidables, mais qu'elles arrivent tard et qu'on a toujours l'impression sur ces questions-là de courir après quelque chose parce qu'il y aurait un retard initial. Les investissements seront absolument gigantesques. Ce sont des investissements à la fois français et européens. On vient de parler des politiques économiques menées. Elles oublient légèrement la question de l'investissement. Et j'ajoute un point, c'est que la bascule, en effet, dans la population est un sujet fondamental. Dans les services publics, dans les entreprises, on voit à quel point finalement les gains de productivité qu'on nous promettait par le passage simplement au numérique ne sont pas encore actés. Est-ce que la bascule directe vers l'IA va permettre de faire ce qu'on n'a pas tout à fait réussi à faire avec le numérique? Je ne sais pas. J'espère. Mais je pense que il y a là quelque chose où l'on doit se garder de l'euphorie comme de la peur excessive.
Gilles, sur ce sujet, sur l'intelligence artificielle, est-ce qu'on va trop vite? Est-ce qu'on va pas assez vite? Et la France est un des fleurons de l'IA. Comment est-ce qu'on maintient cette position pour éviter ce qui a pu arriver par le passé, à savoir une excellence technologique et puis après, le manque de débouchés industriels ou de débouchés techniques?
C'est, je crois, un des apports et un des intérêts de ce rapport qui est... Il y a beaucoup de rapports sur l'IA, qui n'est pas tout à fait un rapport comme les autres, parce qu'il a été présidé par Philippe Aguillon et par Anne Bouvreau, parce qu'il y avait parmi ses membres Yann Lequin ou Luc Julia, qu'on avait reçu ici, qui sont parmi les pontes de l'IA, oui, non pas en France, mais dans le monde, ou Arthur Mensch, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, parce qu'ils ont procédé à 600 auditions. Donc c'est vraiment un rapport qui est important, et je crois qu'il apporte une réponse à deux questions qui sont extrêmement simples. La première, c'est que doit-on faire par rapport à l'IA? Quelle doit être notre attitude? Natacha le disait, l'IA est là. Et donc, il faut en être, disent-ils, des usagers déterminés, parce que l'IA va tout bousculer, ou presque. Il faut s'en saisir, il faut s'y former. Natacha l'a dit, il faut en débattre. Et ça, je crois que c'est très juste. Mais il y a un deuxième élément. Ils disent, qu'est-ce qu'on doit en faire? Il faut en être des acteurs de premier rang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit qu'il y a une alternative. On aurait pu, il y avait une option. L'innovation se fait aux États-Unis, la régulation se fait en Europe. Et on l'a vu, par exemple, sur les données personnelles avec le RGPD, que, d'une certaine manière, ça pouvait fonctionner. Ce que dit le rapport, et je crois que c'est juste, c'est qu'il faut, pour l'Europe, pour la France, remonter la chaîne de valeur et donc être des acteurs de premier rang, c'est-à-dire des innovateurs, parce que sinon nous serons toujours sur la défensive. À partir de là, se pose une deuxième question. C'est pas seulement qu'est-ce que l'on doit en faire, mais qu'est-ce que l'on peut en faire. Parce que Natacha l'a dit, il est tard, il y a un retard. Il y a un chiffre qui m'a beaucoup frappé dans le rapport, les investissements, le total des investissements entre 2013 et 2022. En France, 6,5 milliards, aux États-Unis, 249 milliards. Donc, et même si on fait, non pas la France, mais l'Union européenne, on voit que le retard est considérable. Mais, et c'est là où le rapport est intéressant, alors optimiste peut-être, mais ils disent qu'il n'est pas trop tard. On a des atouts à faire valoir, vous l'avez dit Thomas, on a des actions à engager, 30 milliards d'euros d'investissement, un peu moins, c'est pas inatteignable. Alors évidemment, ça rentre en confrontation avec ce que l'on disait précédemment sur Bruno Le Maire, mais il y a des investissements à faire. On peut être un leader en puissance de calcul. On peut avoir une vraie filière européenne de semi-conducteurs. Et puis, je termine par là, il y a des sujets de débat. Et je crois qu'ils méritent d'être posés. Jusqu'où il faut étendre l'IA dans des secteurs comme la santé ou comme l'éducation? Jusqu'où faut-il assouplir des procédures d'autorisation pour les données personnelles? Et puis, je termine vraiment par là, par un regret. Sur la question de l'emploi qu'on entendait tout à l'heure avec Philippe Aguillon, je ne sais pas s'il est trop optimiste ou pas. Ce que je sais, c'est que même si ce qu'il dit est juste, si le solde global est un solde de création d'emplois, ça sera avec des restructurations absolument considérables, des créations ici et des pertes d'emplois ailleurs. Et ça, je crois qu'il faut aller plus en profondeur et qu'il faut l'anticiper, parce que sinon, ça ne se passera pas bien.
Des choses qu'on avait connues avec la mondialisation il y a une vingtaine d'années.
J'ajoute un point qui formera une transition avec notre sujet suivant, et c'est un des domaines qui est abordé dans ce secteur, qui est la question des médias. Et la question est extrêmement importante, parce que l'utilisation de l'IA dans les médias est un enjeu démocratique majeur. Or, là, mon regret est que finalement, ce rapport esquisse des réflexions qui sont essentielles, mais là aussi arrive un petit peu tard, puisqu'on a appris cette semaine que le journal Le Monde avait signé un accord avec ChatGPT pour utiliser l'intelligence artificielle.
Juste note de bas de page, les lecteurs du Monde n'auront pas demain des articles écrits par Open.
Je pourrais développer la nature de cet accord.
C'est un accord qui permet au Monde, qui par lequel le Monde va donner de l'information, donner des contenus à OpenAI pour nourrir l'intelligence. Donc c'est un peu dans l'autre sens.
Et donc être cité et donc être finalement rémunéré par le fait que les lecteurs seront redirigés vers le Monde, ce qui se fera donc vers eux et du coup pas vers les autres. Ça s'appelle jouer cavalier seul.
Oui, mais c'est un peu différent d'un article écrit par...
Ah non, mais c'est totalement
comme
différent.
Comme les gens peuvent l'entendre quand on le dit un peu rapidement,
sûr.
Gilles.
Oui, je comprends évidemment la position de Natacha, directrice de Marianne. Après, pour les utilisateurs, puisque ça permet, en étant nourri par l'ensemble de la base de données du Monde plutôt que par autre chose, d'avoir des contenus qui sont a priori plus fiables, et ce qui est un des reproches qu'on avait beaucoup fait à ChatGPT, d'avoir des contenus qui soient sourcés, puisqu'il y aura les références. Et puis deuxième chose...
Mais qui ne seront pas rémunérés à hauteur de ce qu'ils devraient.
Et deuxième chose, pour le Monde, au-delà de la reconnaissance symbolique du fait que c'est eux les leaders, on voit à la fois qu'ils ne perdent rien, c'est ce que vous évoquez, c'est-à-dire que l'accès aux articles du Monde continue à être payant, mais qu'ils gagne en réalité pas mal. C'est-à-dire qu'il y a, au-delà, encore une fois, de la dimension symbolique, il y a une rémunération dans cet accord avec OpenAI. Et puis, il y a une visibilité qui va être accrue, puisqu'ils vont toucher notre monde. Donc, ça provoque des débats, mais c'est très intéressant.
Le grand face-à-face, le duel.
Allez, rapidement, dernière info média, elle aussi, de la semaine, c'est le rachat annoncé de BFM et la chaîne de télé et de RMC, la radio, par CMA-CGM, l'entreprise détenue par le milliardaire Rodolphe Saadé. Une information médiatique, mais aussi, évidemment, très politique. Écoutez Alexis Levrier, historien des médias, qui était cette semaine sur l'antenne de France Info.
Quand on possède un tel empire médiatique, BFM, ça reste la première chaîne de télévision d'information en continu en France, on a un outil de négociation avec le pouvoir. Et au-delà du fait que ça peut être rentable en soi, c'est la cohérence d'ensemble du groupe, c'est les intérêts du groupe que Rodolphe Saadé cherche à défendre.
Natacha, je me tourne vers vous. Politique, dit Alexis Levrier, au-delà des avantages économiques, c'est pour peser dans le débat politique. On a un bon exemple depuis quelques heures, Natacha.
En effet, puisqu'on a appris donc que le directeur de la rédaction de La Provence, que détient donc Rodolphe Saadé, vient d'être mis à pied et donc évacué pour une qui aurait déplu à la Macronie après le passage d'Emmanuel Macron à Marseille.
C'est important le conditionnel, parce qu'on a la version des salariés, on attend la version du groupe qui est
plutôt discret pour l'instant.
C'est pour ça que j'ai mis le conditionnel volontairement, parce que je me méfie toujours de l'exaltation. On ne sait pas quelles sont les raisons qui président à l'éviction d'un directeur de rédaction, mais c'est en tout cas là un signal hallucinant. Et surtout, il faut bien comprendre qu'on a, et c'est cela qui est dangereux, la constitution de blocs idéologiques dans les médias. Qu'il y ait des milliardaires qui possèdent les médias, ça, c'est vrai. Autrefois, c'était de véritables patrons de presse. Maintenant, et c'est beaucoup plus problématique, ce sont des industriels avec des intérêts différents. Mais là, la nouveauté, c'est qu'entre le pôle Bolloré, donc, qui très clairement assume un ancrage à la droite et à l'extrême droite, et maintenant le pôle détenu par Rodolphe Saadé, qui incarne l'idéologie centriste autoritaire, on va avoir une fracturation grandissante de la société et une absence de pluralisme dans ces blocs idéologiques.
Je vais vous donner la parole, Gilles, mais un mot encore, Natacha. Est-ce que, pour vous, ça préfigure ce que sera un peu le duel de 2027 entre ces blocs-là? Ça devient aussi des
bien,
blocs
mais bien entendu.
Électoraux.
C'est-à-dire que c'est ça qui est très dangereux, c'est qu'on a donc des blocs médiatiques qui incarnent de façon totale et englobante des visions idéologiques. Et en fait, quand on vire un directeur de la rédaction qui n'est pas raccord, ça signifie, c'est un message à tous les journalistes, ceux qui ne sont pas raccord avec la ligne s'en vont. C'est ce qu'avait fait Bolloré avec iTélévision. Visiblement, c'est aussi ce que fait Rodolphe Saadé. Ce qui signifie donc que le pluralisme qui est essentiel dans des rédactions est abîmé.
Un dernier mot encore, parce que vous êtes directrice d'un journal, d'une publication qui appartient à un milliardaire. Est-ce que, qui a d'ailleurs cette nouvelle version cette semaine, tiens, je l'annonce, est-ce que vous êtes libre, totalement vous, dans votre travail par rapport à cette présence d'un milliardaire qui possède votre journal?
Je ne vais pas faire ma publicité, mais il se trouve que si vous lisez les écrits, les déclarations de Daniel Chretinsky, donc le propriétaire de Marianne, et si vous voyez ce que fait Marianne comme travail, vous comprendrez qu'il doit s'évanouir à chaque fois qu'il lit le journal. C'est-à-dire, c'est très rare, il a nommé une directrice de rédaction qui ne correspond pas à ses idées, parce que il a acheté un journal et qu'il a compris que ce journal ne serait jamais celui qui reflèterait son bord idéologique.
Allez Gilles.
On a deux mouvements parallèles. On a la révolution technologique dont on parlait, à la fois le numérique et avec l'intelligence artificielle, et un mouvement de concentration dont on a un épisode, mais on a aujourd'hui, et c'est un élément nouveau dans le paysage audiovisuel français, on a une petite poignée de très grands groupes qui possèdent la plupart des médias. Pourquoi ils investissent? D'abord parce qu'ils le peuvent. Ils le peuvent juridiquement, ils le peuvent pratiquement parce qu'il y a des médias qui sont à vendre, soit parce qu'ils vont mal, soit ce qui était le cas d'Altice, parce que le propriétaire allait mal, puisque Altice...
Oui, c'est le groupe de Patrick Drahi qui effectivement avait un problème de dette globale.
Et ils le peuvent, et c'est intéressant quand on regarde ce que vient de faire Rodolphe Saadé, pour des raisons financières, parce que investir dans les médias, ça, c'est un investissement à faible intensité capitalistique. Il ne faut pas beaucoup d'argent. Je vous donne juste ce chiffre qui m'a frappé. Un porte-container, ça coûte 200 millions d'euros. Il en a 600. Là, c'est comme s'il avait acheté 7 porte-containers. Donc, on voit que...
Oui, c'est le métier de base de CMA CGM. Hein.
Bon. Donc, ils le font parce que ils le peuvent, et ils le font aussi, je termine par là, parce qu'ils espèrent un retour. La question est de savoir lequel, parce qu'il y a, selon la manière dont les choses sont organisées, beaucoup de retours possibles. Pour certains, et ça existe, c'est un retour citoyen, ils considèrent qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils peuvent investir dans une activité d'intérêt général. Il y a un registre financier, parce que contrairement à ce que l'on dit, les médias peuvent gagner de l'argent, et d'ailleurs, ces médias-là gagnent de l'argent. Et puis, il y a, on va dire, un registre politique, celui de l'influence, mais là aussi, il y a des manières très différentes de faire, selon que l'on ait un agenda idéologique, ou selon simplement que l'on veut que sa voix, être invité à la table des grands, que sa voix pèse. Tout ça, pour terminer d'une dernière phrase, c'est que le poids de tous ces grands groupes privés montre l'importance de l'audiovisuel public, qui est beaucoup attaqué en ce moment, et je crois qu'il faut défendre.
Et vous écoutez France Inter, et c'est l'heure du débat du grand face-à-face.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Bonjour Éric Benzekri.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je le disais en présentation de l'émission tout à l'heure, vous avez la politique qui coule dans les veines, vous avez arpenté les cabinets ministériels quand Lionel Jospin était Premier ministre, vous avez milité au PS, notamment dans l'Essonne, avant de transformer cette connaissance intime des allées du pouvoir et du PS pour créer la série Baron Noir. De la fabrique du pouvoir, vous passez cette année et aujourd'hui à la fabrique de l'opinion, on pourrait dire, avec votre nouvelle série La Fièvre, toujours sur Canal+. Série sur laquelle on va revenir. Mais d'abord, une première question pour vous présenter. Ça vient d'où cette passion pour la politique? Comment est-ce qu'on tombe dedans? Pourquoi vous êtes tombé dedans et par qui? Vous me regardez avec oui. Étonnement.
Par qui? Mes parents, sans doute. L'endroit d'où je viens, c'est-à-dire qu'était une maison en construction dans les Yvelines, construite par mon père, et qui était le siège, un peu officiel, officieux, comme vous voulez, de la CFDT locale, la FCPE locale, le PS local, et le club de foot local. Voilà, donc il y avait toujours plein de gens à la maison et on discutait des choses de la vie, c'est-à-dire de la façon de vivre ensemble, de faire du sport ensemble, de s'occuper de l'école ensemble, etc.
Vivre ensemble, sport, on est clairement dans votre nouvelle série La Fièvre, diffusée depuis quelques jours et chaque lundi, je crois.
Hein. Oui.
Deux épisodes nouveaux un épisode chaque lundi. Dans Baron Noir, vous aviez dépeint la déliquescence de la gauche de gouvernement. Dans La Fièvre, c'est la déliquescence de l'idéal républicain.
La gauche de gouvernement.
Ouais, c'était plutôt le PS, non?
La gauche.
Ouais, enfin, on reconnaissait quelques personnages du PS.
Bien sûr.
Oui, notamment l'un, avec qui vous avez beaucoup travaillé. Julien Drey.
Julien Drey et beaucoup d'autres.
Et beaucoup d'autres, d'accord. Dans La Fièvre, c'est donc la déliquescence de l'idéal républicain que vous mettez en scène, que peut-être vous prophétisez, comme dans Baron Noir. Alors, je ne vais pas raconter l'histoire, mais le point de départ, c'est un événement en apparence secondaire entre un joueur de foot noir et son président blanc. Un fait divers dans le foot qui va déclencher une très grave crise dont compte profiter Marie Kinski, nouvelle égérie ultra-conservatrice qu'on écoute dans la série.
Dans l'Ancien Testament, Dieu créait le monde en 6 jours, alors qu'aujourd'hui, une seule image suffit. Comme l'effondrement des tours du World Trade Center, par exemple. Eh bien, l'image de ce soir, ce coup de boule, ce toubab en sang, nous plonge, nous aussi, dans un monde nouveau. Car les élites à paillettes mondialisées ont vu la violence que subissent tous les toubabs de France au quotidien venir pourrir un de leurs pince-fesses à petit four. Pauvre chaton. D'habitude, ils y célèbrent le black-blanc-beurre entre millionnaires pour nous vendre leur mythe du football qui fait nation. Mais ce soir, révélation. Ce qui fait nation, ce n'est pas leur veau d'or du foot à la gloire de la diversité. Mais bien l'histoire, la culture, la civilisation. Oui. Ce soir, c'était le 11 septembre de leur vivre ensemble.
L'excellente Anna Girardot dans le rôle donc de Marie Kinski. Ses propos étaient très marginaux. Il y a quelques années, on pouvait les entendre, mais très marginaux. Aujourd'hui, on peut les entendre sur des grands médias. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Éric Benzekri?
Avec de la désinvolture, je pense. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un petit souci dans... Enfin, il y en a plus qu'un, mais il y a un gros souci dans le débat public. C'est que on ne lit pas ce qu'écrivent les personnalités. On en reste à leurs petites phrases, un petit bout de mot. On ne lit pas l'entièreté des textes qu'ils produisent. Et moi, je fais confiance à ce que produisent les gens. Je pense que quand on prend un crayon ou un ordinateur maintenant, mais vous voyez, j'ai un papier devant moi et un stylo. Quand on écrit un texte, on pense à chaque mot de ce qu'on écrit. Je pense que ça sort d'une réflexion. Et donc, moi, je prends au sérieux. Donc, j'ai lu l'ensemble des programmes, par exemple, politiques, de campagne électorale pour la présidentielle, pour les législatives. C'est un peu fastidieux, hein, mais ça me nourrit et je comprends la pensée de ceux qui la formulent. Il faut faire confiance, en fait, à ceux qui écrivent et après, on en tire les conclusions. Bien sûr, il y a du mensonge. Mais il y a quand même d'abord ce qu'ils pensent.
Quand vous parlez de désinvolture, c'est de la désinvolture de la part de qui? De ceux qui leur donnent la parole? Des citoyens qui ne lisent pas les programmes?
Les citoyens, ils ont, quand ils ont la chance d'en avoir un travail, donc de l'activité toute la journée ou la nuit pour beaucoup d'entre eux, et des enfants qu'il faut éduquer et plein de choses à faire. Donc je veux pas les surcharger de tâches et de responsabilités. Il y a dans toutes les démocraties en fait ce qu'on appelle des gatekeepers. Je déteste m'exprimer avec des mots anglais, mais je sais pas comment on dit, des sortes de gardiens, si vous voulez, de la parole publique et des digues. Bon, et je pense que ce travail est de moins en moins fait, notamment par les politiques. Je le dis parce que j'en viens, donc je le prends aussi sur moi. En fait, on a eu tendance à traiter les choses un peu comme, vous voyez, j'ai ce souvenir de... C'est un petit peu une ère de dérision, d'ironie permanente, vous voyez, où on rebondit sur un sujet sans... Et on passe à un autre, et on passe à un autre, et on n'approfondit rien. Et au bout d'un moment, les citoyens n'ont plus les armes pour comprendre le plus important, c'est-à-dire dans quel monde ils vivent.
On va voir peut-être que c'est... l'esprit et l'ambition de la fiction de votre série que de remettre ça en mots chez des comédiens, ce qui est paradoxal, fiction, de ramener au réel.
C'est plus que paradoxal, mais c'est vraiment le projet qu'on a assumé d'essayer de faire, hein, après à voir si ça marche ou pas, mais avec Laure Chichmanoff et Anthony Gisèle, mes deux co-auteurs. C'est-à-dire, on s'est dit, on est parti du livre de Zweig, bien sûr, mais de Guy Debord aussi, La Société du Spectacle, parce que on a pensé, en discutant ensemble, que il s'agissait là de l'idéologie du système de pensée qui tenait le plus dans le XXe siècle par rapport à tout le reste. C'est ça qui paraît prophétique. C'est pas ce qu'on fait nous, c'est Guy Debord, c'est La Société du Spectacle. Or, dans le faux, dans ce mélange du faux et du vrai, finalement, nous aussi, les auteurs, on est rentrés dedans en disant peut-être que comme on n'arrive plus à voir le réel dans la vraie réalité, alors il faut du faux, de la fiction, pour nous permettre de mieux décrypter le monde dans lequel on vit. Je sais pas si c'est très clair.
Si, on comprend bien, le faux pour atteindre le vrai. Gilles.
Du baron noir à la fièvre, il y a un double mouvement qui m'a beaucoup frappé. Les deux séries sont des séries politiques, mais Baron Noir était une série politique qui partait de la politique. La Fièvre est une série politique qui part de la société. Baron Noir était une série centrée pour l'essentiel sur les hommes. La Fièvre est une série dans laquelle les trois rôles principaux sont joués par des femmes et par trois jeunes femmes. Vous disiez tout à l'heure, on pense à chaque mot. J'aime cette phrase de Romain Gary dans Chien Blanc. Il parle de quelqu'un qu'il trouve très intelligent. Il dit, il ne médite pas, il prémédite. Et donc, qu'est-ce que vous avez prémédité? Qu'est-ce que cela a comme signification, ce double basculement de la politique à la société et des hommes aux femmes?
Éric Benzekri.
Alors, d'abord des hommes aux femmes. On a voulu mettre un coup de pied de réel dans Baron Noir, c'est-à-dire un monde nouveau qui débarque. On n'a pas surligné le fait que c'était des femmes. On a mis des individus en situation de responsabilité et de force intellectuelle, tactique, stratégique. Voilà. Et avant tout aussi émotionnelle. Et on l'a fait pour dire, voilà, maintenant c'est comme ça. Et c'est très bien. Mais on va pas le surligner. Vous voyez,
si non,
on
c'est surligne, moi qui, c'est moi qui l'ai
voilà.
Fait.
Mais si on le surlignait, ça voudrait dire que regardez ce qu'on a fait. C'est... Bon, non, on fait pas ça. On les met. Et en fait, en écoutant votre question, je me disais, mais Baron Noir, on l'a un peu fait avec la présidente de la République, mais c'était évidemment pas la même chose. Je suis bien d'accord. Donc la modernité. Ce qui va aussi avec, c'est le rajeunissement brutal. Les premières versions qu'on a, c'est des femmes de 40-45 ans qui ont une bonne expérience dans la communication et on a décidé d'enlever 10 ans en réalité. Aussi parce que ces actrices-là, elles sont merveilleuses, magnifiques, et voilà, mais aussi parce qu'il y a un monde nouveau qui est venu avec la maîtrise, la gestion des réseaux et de l'intelligence artificielle. En fait, c'est la même chose. Et donc, on a voulu accentuer cette modernité-là. Sur le passage principal, Baron Noir, La Fièvre, c'est un changement c'est un contre-champ en réalité. Dans une série, il faut toujours rentrer dans le cœur d'un métier. Métier politique pour Baron Noir. Et là, il fallait un métier de la communication de crise. Et ce métier-là, on y rentre parce qu'il traite. Et la communication de crise, elle traite aujourd'hui d'abord des affaires qui peuvent enflammer la société à travers des personnalités publiques. Donc, on a été à la logique pour essayer d'être un peu pédago. Voilà.
Et sur les comédiennes, Nina Meurice, ça aurait été dommage de ne pas la prendre. Et donc, si elle rajeunit, formidable.
Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et ben voilà. Les essais ont gagné tout.
Mais En effet, c'est un effet de réel, ces femmes, parce que, de fait, il y a dans la communication aujourd'hui, de la part de tous les acteurs de la société, l'utilisation aussi de jeunes femmes, parce que c'est un mode de conquête, bien sûr. Et on le voit très bien chez les nouvelles influenceuses identitaires, et celle que vous peignez est criante de vérité. Il y a plusieurs types d'acteurs dans cette série qui se rencontrent, qui jouent les uns contre les autres ou les uns avec les autres. Et ce qui m'a frappé, c'est en fait le sentiment que on a certains de ces acteurs qui sont en fait des utilisateurs cyniques des fractures dans le but de faire avancer leurs propres intérêts. D'ailleurs, tous ne sont pas dans des intérêts comme l'influenceuse d'extrême droite, dont on voit très bien qu'elle, elle poursuit un but politique. Il peut y avoir des intérêts qui sont des intérêts de préservation de sa propre petite boutique. Et puis, il y a cette espèce de désinvolture, d'irresponsabilité. On voit un politique, un ministre de l'Intérieur, qui visiblement trouve que tout ça va lui servir à sa carrière et que c'est très bien. Et la question que je me posais face à cela, c'est... Avez-vous voulu dépeindre cette irresponsabilité comme étant, en fait, une perte peu à peu de réflexion de l'ensemble des élites et des acteurs de la société sur le bien commun, un oubli de cette fragilité de la démocratie?
Éric Benzekri.
Irresponsabilité, c'est pas le terme qu'on employait entre nous, la non-prise de conscience, voilà, du danger qui a évolué dans une société atomisée au point que des groupes se réorganisent collectivement, mais par le biais d'un algorithme. C'est-à-dire, les communautés ou les forces collectives qui existent aujourd'hui sont déterminées et regroupées d'abord par la volonté, entre guillemets, d'un algorithme. Pas par, voyez, un discours commun, une réalité commune, un mode de vie commun. Et ça, c'est pour moi une perte, le premier signe d'une perte concrète de la réalité d'un monde sensible, où on se croise, où on se mélange, où on se regarde dans les yeux, sans se défier, mais en essayant de voir comment ma phrase est perçue, et donc si jamais il faut que je me calme, parce que manifestement je fais du mal, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire ce qu'on a appris en naissant, quand on vient au monde.
La sociabilité.
Ouais, la sociabilité, absolument. Ouais.
Vous évoquiez, Guy Debord, le situationnisme, oui. Le vrai, le faux. Il y a quelque chose d'encore plus perturbant dans votre série, c'est qu'elle est diffusée sur Canal+, qui est la propriété de Vincent Bolloré, qui est considéré comme un des acteurs de cette archipélisation, terme employé chez Fourquet et dans votre série. Pourquoi sur Canal+?
Alors, je travaille avec Canal+ depuis le début, en fait, de mon métier de scénariste. C'était d'ailleurs un autre actionnaire quand j'ai commencé. Et la création originale à Canal n'a pas bougé. En fait, c'était Fabrice de la Patelière, maintenant Olivier Bibas. Il y a toujours eu la même méthode entre nous. Moi, j'ai une seule boussole, ma liberté de création. Il faut qu'elle soit totale, parce que sinon, je peux pas écrire ce que je veux. Et donc là, j'aurais eu un problème. Je n'ai pas rencontré ce problème. Mmh. On a une relation exigeante, mais aussi de confiance. Et je vois pas pourquoi je partirais d'un endroit où je me sens bien parce que j'ai cette liberté de création. Est-ce que je pourrais l'avoir ailleurs? Peut-être, mais je l'ai pas vérifié par moi-même.
Il y a dans cette série une tension, un conflit, c'est le cœur de la série, entre les identités qui divisent et un commun qui peut rassembler. Est-ce que ça veut dire, Thomas parlait de l'archipélisation que vous inscrivez en faux, enfin cette analyse de l'archipélisation de la société. Et deuxième question, vous avez un outil qui symbolise ce commun dans le club de foot, qui est la création d'une coopérative. Le club se transforme en coopérative. Pourquoi ce choix-là?
Parce que la coopérative, pour moi, ce n'est pas simplement une sorte de gadget économique. Il s'agit d'avoir une démocratie qui ne soit pas simplement une démocratie du point de vue de l'échange des opinions, mais de la propriété du capital et des moyens de production. pour parler comme un ancien. Voilà. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir de démocratie politique réelle aboutie sans démocratie sociale. En tout cas, en termes de concertation sociale, en termes d'écoute des salariés, etc. Or, il se trouve que dans ma vie personnelle, plus exactement celle de mon père, il était ouvrier puis technicien électricien dans une société et il s'est fait licencier comme beaucoup de monde au début des années 80, en 1980 je crois. Et puis, 6 mois après, il y a eu l'élection de François Mitterrand, dans laquelle il y avait une petite proposition, pour ça que je lis les programmes, toute petite proposition, où il s'agissait d'aider les chômeurs, c'était le cas de mon père, par une aide financière, pour pouvoir monter une entreprise, oui, mais une entreprise coopérative. Et c'est ce qu'il a fait. Et ils ont commencé à 4, et ils ont terminé à 86. Et donc, j'ai l'exemple concret, que ce n'est pas généralisable, je ne propose pas un changement, mais il y a des poches de démocratie et de succès, même intégrées dans la dureté de la compétition économique. Ça existe. Donc, si ça existe, pourquoi j'en parlerai pas ? Voyez ce que je veux dire ? Moi, j'écris à partir de mes angoisses, je suis comme n'importe quel auteur. Bon, donc, je vous mets ça, c'est angoissant, je sais, vous avez vu les épisodes, vous n'êtes pas très bien. Mais il y a des motifs d'espoir. Et je les ai aussi mis. Ça existe. Et il faut faire attention à ne pas traiter ça comme, si vous voulez, des espèces de petits rêves, de contes de fées. C'est pas vrai. Ça change la vie des gens. Il y a beaucoup de choses comme ça qui existent. Et il faut les surligner, les pousser, les encourager, les mettre en valeur.
Vous citez Guy Debord, il y a un autre auteur que j'ai souvent en tête qui est Cornelius Castoriadis, qui montrait combien chaque société produit un certain type humain. Et que finalement, la Troisième République, par exemple, a produit le type humain qui est le juge intègre, l'instituteur qui est une sorte de modèle, etc. Quel type humain produit notre société ? Et le fait que vous soyez obligé de passer par la série pour nous faire comprendre ce qui est en train de se passer en fait sous nos yeux, est-ce que ce n'est pas parce que justement nous n'arrivons pas à fabriquer des modèles dans une société comme la nôtre et que la République n'arrive pas, ou qu'on a abandonné l'idée qu'elle pouvait produire un récit ?
Éric Benzekri.
C'est évidemment la question centrale. C'est l'identification à la nation à travers ses représentants, qu'ils soient, des éducateurs ou des représentants politiques. Dans Socialisme ou Barbarie, Castoriadis, effectivement, raconte la France, enfin, explique la France comme étant sa période de vraie fondation étant la Troisième République. Et c'est évident parce que le travail de l'école a construit des générations de Français et les anticorps construits à l'époque sont encore les nôtres. Oui. C'est ça qui m'intéresse, c'est que cette histoire dure depuis plus d'un siècle quand même. Bon, ce qui fait qu'on résiste un peu plus, je crois, à la crise démocratique mondiale que les démocraties anglo-saxonnes. Un petit peu plus. Je dis pas qu'il y a une différence majeure, mais je pense que ça résiste un petit peu plus. Bon, oui, il y a un manque de figures auxquelles on peut s'identifier dans le sens du bien commun. Pas simplement de la réussite individuelle. Parce que quand on dit, l'exemplarité, alors il faut tel type de personne à la télé pour qu'on s'inspire. C'est juste, je suis d'accord avec ça. Mais les figures d'autorité. Vous voyez, je donne un exemple tout bête. Vraiment tout bête. Cette histoire d'uniforme à l'école. Moi, ça m'intéresse. Au début, j'ai été intéressé. J'ai regardé ça, je me suis dit, oui, pourquoi pas tout ça. Et puis, à un moment, une formule, comme souvent, comme je suis scénariste, c'est comme ça, on m'a dit, mais toi, je sais plus qui m'a demandé ça. Genre, t'es pour, toi, l'uniforme à l'école ? J'ai dit oui. Et j'ai dit, pour les professeurs. Et c'est venu comme ça. Et en fait, je pense que s'il y avait encore Baron Noir, Rigvart aurait dit ça. Vous voyez ce que, c'est-à-dire, parce que, en fait, le problème n'est pas les élèves, le problème est l'autorité du professeur. Et il n'y a pas que les salaires. C'est pas qu'une histoire de salaire. C'est une histoire de relation avec les parents, par exemple. On a fait entrer les parents dans la communauté éducative. C'est très bien, c'est nécessaire. Mais qui a le manche ? Je veux dire, c'est ça qui compte. Quelle est la direction ? Qui a l'autorité ? Et l'autorité, on n'en parle que d'un point de vue sécuritaire. Mais moi, je pense que l'autorité, c'est une autorité intellectuelle, quasiment, je veux dire, parentale. Voyez, c'est parentale au sens de la protection. Voilà. Et je pense qu'on a besoin d'être protégé, notamment par rapport aux écrans. D'aide pour être protégé.
Alors tiens, les écrans. On voit dans la série les communicants qui sont face à une série d'écrans très impressionnants. Il y a les algorithmes, les tendances de chaque... Ouais. chaque mot dièse sur les réseaux sociaux, etc., où ils peuvent mesurer la puissance de tel ou tel terme, de telle ou telle expression, etc., on a quasiment l'impression d'être dans un QG militaire. Oui. Est-ce que vous l'avez pensé comme ça? Et est-ce que ça veut dire qu'on est en guerre culturelle?
Faut peser ses mots. oui, on l'a pensé comme une salle de crise, absolument. On l'a pensé comme le bruit du monde. C'est comme ça qu'on l'appelait. On l'appelait le vacarme.
Voilà. Et c'est très réussi, pour le coup.
Parce que c'est du vacarme, hein. C'est du bruit, c'est du vacarme médiatique. Jacques Pilan, le célèbre communicant de François Mitterrand, puis de Jacques Chirac, en tout cas pour sa campagne, disait qu'il fallait s'extirper du bruit médiatique pour qu'une parole puisse, non pas impacter, je déteste, mais peser sur le débat public. Bon. Donc, c'est le vacarme médiatique. Il est confus. C'est le mythe de l'horizontalité dans l'expression des opinions. Pourquoi ? Parce qu'une opinion ne naît pas d'une autre opinion. Elle naît de l'analyse d'un fait. S'il n'y a plus de fait, toutes les opinions qui circulent ne sont même plus des opinions. Ça ne m'intéresse pas. Et même, ça me pollue dans les choses que j'ai à faire très concrètes dans la journée. Éduquer mes enfants, faire mon travail, faire à manger, aimer ma femme.
Vous n'aimez pas, voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire quand on prend, quand on demande à quelqu'un l'opinion de quelqu'un sur l'opinion d'un autre.
Ben ça ne veut rien dire. De quoi on parle? À partir de quoi? Quels sont les faits? Après, on peut avoir un débat, et le débat, y compris conflictuel, est très important pour organiser la démocratie. Mais d'abord, il faut un monde commun. Et l'inquiétude portée par la série La Fièvre, c'est celle de la disparition d'un monde commun, mais avec un espoir qui dit écoutez, à partir du moment où on constate qu'il est en train de se déliter, reconstruisons-le.
Gilles.
Alors, toujours sur les écrans, cette série a pour point central la question de la communication et de la communication de crise. Et donc, aujourd'hui, la question des réseaux sociaux. Ma question est la suivante. Est-ce que ce sont ceux qui sont le plus polarisés, qui sont les meilleurs experts de l'utilisation des réseaux sociaux, ou est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui, par nature, polarisent et font que on perd ce commun? En gros, pour dire les choses, pour poser la question autrement, est-ce que ceux qui sont dans cet idéal du commun ont la capacité d'utiliser aussi efficacement les réseaux sociaux?
C'est évidemment la question qu'on se posait à chaque épisode, en termes de, faut réfléchir à des contre-attaques de communication. Et en fait, on n'a pas opté pour le faire via les réseaux du côté du personnage de Nina Meurice, de Sam, mais par de la communication à l'ancienne. Avec la séquence Bisounours que vous verrez dans un des autres épisodes, j'ai oublié lequel. Mais en fait, je pense que l'instrument, puisqu'il est construit pour gagner de l'argent, l'instrument réseaux sociaux, faire du profit, c'est tout à fait mercantile, en plaçant des publicités, puisque l'outil est gratuit, hein, tout ça est gratuit. Moi, quand il y a quelque chose de gratuit, je me méfie un peu, en règle générale, je me dis pourquoi je devrais... Bon. Donc c'est gratuit, et en fait, c'est fait pour placer des publicités qui financent les entreprises en question. Ces publicités-là, on s'est rendu compte qu'elles marchaient mieux, qu'elles étaient plus vues, plus remarquées, à la suite ou au-devant de messages violents, radicaux, qui sont les plus partagés. Donc, il y a un intérêt mercantile à promouvoir le clash, la violence. Donc, le système des réseaux sociaux, en tant que tel, produit cela. Mais les discours radicaux, évidemment, ceux qui les propagent, qui les défendent, qui les expriment, ont bien vu l'intérêt qu'il y avait à rentrer dans cette machine, puisque ça les met en avant. Donc, on est dans une situation où tout le monde gagne pour ces deux. Ceux qui n'arrivent pas à exister sont ceux qui ont un message non pas plus modéré, mais plus sensible. C'est-à-dire qui refusent de rentrer dans le débat par une insulte.
Il y a une présence très forte des émotions dans cette série, oui. Les pulsions, mais aussi l'émotion de Sam, justement, qui a extrêmement peur de la guerre civile qui vient. Est-ce qu'il peut y avoir des émotions positives? Comment elles se fondent et comment elles s'articulent avec la rationalité?
Oui, il peut bien sûr y avoir des émotions positives, mais je pense qu'elles sont d'abord collectives. C'est-à-dire que c'est en se rencontrant, en échangeant, en élaborant quelque chose de neuf par la rencontre de deux pensées qu'il y a quelque chose de positif et une victoire.
J'ai une toute dernière question. Oui. On a une passion commune, c'est le foot.
Oui.
Pourquoi vous avez choisi le football comme point de départ d'une société qui part à volo?
Deux raisons. La première, c'est que c'est une caisse de résonance extraordinaire de n'importe quel événement. Parce que le football rassemble encore l'ensemble des Français et des Françaises, en tout cas beaucoup. C'est transclassiste, il y a les genres, il y a les générations, tout le monde regarde du foot. Donc si vous avez un événement majeur dans le football qui se passe, alors tout le monde va en parler tout de suite. Et enfin, je crois que c'est un des lieux dans la société actuelle où la nouvelle génération de Français a fait son trou et où donc c'est très observé par les identitaires des deux côtés. Voilà. Précisément parce que il y a une sorte de nouvelle France là-dedans, dans ce milieu du football, et donc elle est regardée, scrutée, en attendant le moindre faux pas, voilà, pour construire un discours radical.
Merci, merci beaucoup Éric Benzekri d'avoir été notre invité. On retrouve un épisode de La Fièvre chaque semaine, chaque lundi sur Canal+. Merci Gilles, merci Natacha, merci également à l'équipe du Grand Face à Face. Chaque semaine, Mathilde Clatte prépare l'émission, Marie Mérier la réalise. Et aujourd'hui, c'était Marie Potier à la technique d'une émission. Et je le précise, que vous pouvez écouter ou réécouter en podcast sur l'appli Radio France et sur franceinter.fr. On se retrouve samedi prochain à midi pour un nouveau Grand Face à Face.